Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous préparez tranquillement votre automne, je sais pas vous, mais comme d'habitude, je me répète à chaque fois, chaque année dans les podcasts à cette période-là, mais je pense que c'est vraiment l'automne, une des périodes que je préfère. Je sais pas, cette ambiance, entre l'ambiance soupe de courge, feuilles oranges dans les arbres, où on commence à se rhabiller un peu chaudement parce que, ben voilà, en fin de journée, il commence à faire frais, etc. Il y a un mélange de tout ça, moi, qui j'aime bien, voilà. Dans un monde, et dans une ambiance assez pessimiste actuellement. Si vous voulez prendre une petite dose de positif, faites-vous une bonne boisson chaude, allez vous promener d'abord dans le frais, dans les feuilles mortes là, et ensuite une bonne boisson chaude à partager avec votre compagne, votre compagnon, vos parents, vos amis, j'en sais rien, vous verrez que ça n'a pas de prix quoi, et en plus si vous avez un petit feu de cheminée à proximité, c'est encore mieux. Bon, je sais pas si on a le droit de faire toutes ces choses là en pleine nature, mais moi quand j'étais gosse, vous savez, à cette période là avec mon père, moi je faisais rien, je l'accompagnais juste parce que j'étais vraiment tout petit, enfin j'étais enfant. Quand il allait couper du bois pour prévoir pour l'hiver, j'adorais l'accompagner et souvent il faisait cramer, bon je dirais pas quoi parce qu'aujourd'hui sinon les écolos ils me poursuivraient en justice, mais on faisait cramer des choses dans la forêt. Et on se réchauffait au passage devant ça, et j'adorais cette ambiance où tout était humide autour de nous, et nous on se réchauffait avec ce qui était en train de flamber sous nos yeux. Mon père tronçonnait des arbres, il coupait ça, et puis après on rentrait, il préparait les stères pour l'hiver, etc. Bon, je vous raconte ça parce que j'adore l'automne, et je sais que parmi vous il y en a énormément qui adorent ça aussi, et on est en plein dedans depuis quelques semaines maintenant. Bon, consommation de viande, consommation de café, application pour mincir et économiser de l'énergie. C'est un petit peu les sujets dont nous allons parler aujourd'hui. Le premier, comment la viande pourrait favoriser le cancer et les maladies cardiovasculaires. Donc c'est un article de lanutrition.fr, plus précisément de Juliette Pouya, journaliste scientifique. Je pense pas que ça vous intéresse beaucoup de savoir comment, pourquoi, cancer, tout ça. Donc il y a plusieurs pistes. Il y a une piste liée à l'inflammation qui pourrait être faite à cause d'une molécule étrangère, la NEU5GC, donc NEU5GC, qui conduit le système immunitaire du corps humain à constamment générer des anticorps contre cette molécule. Bon, après, il y a aussi les risques de pathologies cardiovasculaires, etc. Il y a la piste de la carnitine et TMAO, triméthylamine N-oxyde. Bref, moi, là, c'est pas de ça que j'ai envie de vous parler, de vous agresser avec ça. Vous connaissez déjà mon point de vue par rapport à la viande. Évidemment, il n'est pas le même que pour ceux qui pensent le monde de manière sous l'œil d'un sédentaire écolo, etc. Moi, je vois plutôt, enfin, je suis sportif et je pense que vous l'êtes aussi. Donc, on a forcément un regard légèrement différent sur l'alimentation. Et de toute façon, je connais très peu de monde qui a les compétences concrètes pour savoir ce qui est vraiment écologique. C'est-à-dire que l'amalgame qu'il y a entre la consommation de viande liée à la cause animale, liée à la cause climatique, etc. Bon, et liée à la santé également de l'homme, parce que là on n'est plus sur un sujet lié à la santé. Moi, le seul sujet où je fais des recherches, c'est plutôt lié à la santé. Je vais pas m'en cacher. C'est plutôt ça, moi, mon domaine de recherche. C'est pas moi qui vais vous faire de la morale sur l'écologie ou parce que d'un, j'y connais rien et deux, enfin voilà, c'est pas mon domaine, quoi. Il y en a qui le font. Donc bref, Là, pourquoi je voulais parler de cet article, parce que l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, que nous avons beaucoup entendu ces dernières années, en pratique, ils disent mais ça ressemble à quoi une dose santé de viande par semaine. Alors eux, ils disent de consommer. Alors évidemment. Ils le disent pour... On ne sait pas pour qui c'est, parce que l'OMS, là, ils disent de manger, de ne pas manger plus de 500 grammes de viande fraîche par semaine. Mais pour qui, en fait? C'est toujours ça qui me... Peut-être qu'ils l'ont précisé quelque part. Mais pour qui? Pour un enfant, ça fait 500 grammes. Pour un adulte, pour un vieillard, pour... On le sait aujourd'hui, par exemple, que pour une personne qui a 50 ans, c'est pas la même chose que pour une personne qui a dépassé 65-70 ans. Lié à la sarcopénie qui s'accélère, etc., arrivé à un certain âge, ça peut devenir plus intéressant d'augmenter sa ration de protéines. Est-ce que c'est pareil pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants, comme je disais, pour le sportif, le non-sportif? Donc non, il n'y a pas... On essaye de donner toujours des valeurs grand public. Bon, une moyenne, mais une moyenne de quoi? C'est pas possible de donner une moyenne, parce qu'est-ce qu'on peut donner la même moyenne à Josiane qui fait un demi-marathon par semaine et qui va à la salle de muscu, et à José qui a le cul vissé sur une chaise et qui fait rien de sa journée à part monter dans sa voiture et descendre de sa voiture, en fait, voilà. Donc on peut pas donner fondamentalement les mêmes recommandations. Bon, la nutrition.fr, ils ont été un peu plus précis, puisqu'ils ont dit que pour les hommes adultes de tout âge, alors la nutrition recommande aux adultes de tout âge, aux hommes adultes de tout âge, femmes de plus de 50 ans en bonne santé, de manger pas plus d'une fois par semaine du bœuf, du taureau ou du cheval. Pas plus de trois fois par semaine de la dinde, du poulet, du canard, de la pintade, du lapin, du porc, du veau, à l'occasion de l'agneau et du mouton et du gibier. Et aux femmes entre 15 et 50 ans, et aux enfants en croissance, de manger 0 à 2 fois par semaine du bœuf, du taureau, du cheval, du gibier qui peuvent apporter des quantités intéressantes de fer. Donc il y a une petite faute là dans la nutrition, là, c'est qui peuvent apporter, j'imagine. Pas plus de 2 fois par semaine de la dinde, du poulet, du canard, de la pintade, du lapin, du porc et du veau, et à l'occasion de l'agneau et du mouton. Alors moi, je me retrouve face à un espèce de dilemme. Pourquoi un dilemme? Parce que, par exemple, là, je préparais le podcast, et pendant que je préparais le podcast, donc je lis cet article, et en même temps que je lisais cet article, ben voilà, je me suis dit, bon, ben c'est bon, j'ai mes fiches pour enregistrer mon podcast, je vais m'y mettre. Je vois l'heure, et puis je me dis, mince, je m'y suis mis un peu tardivement, parce que ce matin, j'ai dû faire un saut en ville avant de démarrer, pour accompagner un proche à la gare, et je me suis dit, tiens, à midi, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je peux prévoir à manger pour midi? Et puis j'ai des restes de la veille. Et il me reste un peu de bœuf de la veille, parce que j'avais fait un gros plat un peu, vous savez, mexicain, là, type chili. Ah, le téléphone sonne. Allez, on reprend. Le téléphone a sonné, j'ai répondu, c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'en étais là. C'est vrai que, bah, par exemple, quand on a des restes, par exemple, de chili, de choses comme ça, où il y a du bœuf dedans, on n'est pas obligé de mettre du bœuf dans le chili, hein, mais moi j'en mets. Le lendemain, on fait quoi? On le jette? On gaspille? Enfin, comment ça se passe, en fait? C'est ça. Parce que pas plus d'une fois par semaine du bœuf. Bon, ça va, c'était dimanche soir que je l'ai mangé, mon bœuf. Donc, du coup, on est lundi. Donc, on est une nouvelle semaine. Donc, je peux le manger. Non, enfin, vous voyez l'absurdité du truc? On en vient à devoir gaspiller ou alors. Moi, je suis pas contre gaspiller du cheat meal. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un paquet de gâteaux au chocolat et je sais pas quoi, enfin bon, un bon truc ultra transformé, j'ai pas trop de scrupules à le balancer à la poubelle. Au lieu de le bouffer comme ça, en pleine semaine, hors période prévue pour se faire plaisir, entre guillemets. Là, il y en a, je suis sûr, qui m'écoutent, qui disent « Oh là, il se met des barrières, des périodes pour se faire plaisir. » Bah oui, je pense que c'est une des solutions. Mais bon, bref, je trouve qu'il y a une forme d'absurdité à quantifier. Parce que là, pas plus d'une fois par semaine du bœuf, du taureau, du cheval. Bon, cet été, je suis allé au resto. Je sais que j'ai mangé du taureau déjà, puisque moi, je suis dans le sud et que la gardienne de taureau et tout, c'est assez... Enfin, il y en a souvent, donc quand j'y vais, j'en prends, j'aime ça. En plus, quand je suis né en Sologne, aussi en Sologne, il y avait du sanglier, et c'était assez régulier. Bon, ok, toute cette viande, est-ce que c'est vraiment pour la santé, en fait? Parce que j'ai l'impression qu'on met un petit peu tout dans le même panier par rapport à la viande. Est-ce que c'est ces viandes-là, c'est les viandes sauvages, les viandes ultra transformées, retouchées par l'industrie, c'est quoi en fait? Et quand on fait du sport, surtout, est-ce qu'on n'a pas une capacité à mieux métaboliser toutes ces viandes? Parce que là, une fois par semaine du bœuf, franchement, moi, je pense que je suis presque déjà dans ces clous-là. J'en mange vraiment pas souvent du bœuf. En règle générale, le week-end, j'en mange. Et la semaine, je suis plutôt sur de la dinde, du poulet et des poissons. Le taureau et le cheval, bon, j'en mange très rarement, sauf au resto. C'est du taureau, du cheval, jamais. Pas plus de 3 fois par semaine, dinde, poulet, canard, pintade, lapin, porc, veau. C'est marrant que le porc soit plus fréquent que le bœuf, d'ailleurs. Du porc, je peux en manger, maigre, en filet, veau aussi, lapin, c'est très rare, pintade, très rare, sauf durant les fêtes, canard, ouais, de temps en temps, je peux manger du canard, et poulet et dinde, oui. Donc, on est assez cohérent sur ça, et à l'occasion, agneau, mouton, gibier, bon, ça, j'en mange de l'agneau un peu, du mouton et du gibier, très, très rarement. Enfin, bon, voilà. Pourquoi je raconte tout ça? Parce que c'est vrai que pour ceux qui ont à peu près le même âge que moi, qui ont à peu près le même mode de progression dans le monde de la musculation, du fitness, etc., on a tous démarré à une période où, pour avoir de la protéine facile, c'était les grosses boîtes de steak haché d'un kilo, premier prix. On se posait pas trop la question de savoir si c'était bon ou non pour la santé, c'était de la protéine, c'était meilleur que le poulet était cher, et toujours cher, mais quand on est fin des études, jeune adulte avec son premier salaire proche du SMIC, acheter du poulet, de la dinde, c'était hors de prix, donc on allait sur du bœuf premier prix, c'était moins cher, enfin du bœuf, même des burgers ça s'appelait, parce qu'ils n'avaient même pas le droit d'appeler ça du bœuf je crois, et finalement on s'est gavé de ça pendant une période, et voilà quoi. Donc ça, je peux comprendre que ça soit de la vraie saloperie. Aujourd'hui, on est quand même, enfin même moi, je me sentirais pas tranquille de manger du bœuf tous les jours. Il y en a qui le font, il y a même des régimes type carnivore et tout, il y en a qui n'ont pas de problème avec ça. Moi, perso, je n'irais pas manger quand même une bavette au quotidien, quoi. Parce qu'on a quand même des retours au niveau santé. La viande rouge, en excès, c'est pas top top, quoi. En excès. Après, pas plus d'une fois par semaine pour le sportif, je dirais quand même 2-3 fois par semaine. Si on fait pas mal de sport, j'espère qu'on peut au moins se le permettre, sinon personne peut en manger, quoi. Si tout le monde doit en manger pas plus d'une fois par semaine, je comprends pas la logique, en fait, faut me l'expliquer, si on met tout le monde dans le même panier. Enfin bon, bref, voilà, je vous ai donné à peu près les dosages que eux recommandent, la nutrition.fr. J'imagine que c'est pour les gens sédentaires, hein. Pas plus d'une fois par semaine du bœuf, taureau, cheval, pas plus de 3 fois par semaine dinde, poulet, canard, pintade, lapin, porc, veau, et à l'occasion agneau, mouton, gibier, et pour les femmes entre 15 et 50 ans et les enfants en croissance, 0 à 2 fois par semaine bœuf, taureau, cheval, gibier qui peuvent apporter des quantités intéressantes de fer, pas plus de 2 fois par semaine dinde, poulet, canard, pintade, lapin, porc, veau, et à l'occasion agneau, mouton. Voilà. Donc sujet suivant, on va parler de caféine, de café. Donc, selon une étude publiée aujourd'hui dans l'European Journal of Preventive Cardiology, une revue de l'ESC, la consommation de 2 à 3 tasses de café par jour est associée à une durée de vie plus longue et à un risque moindre de maladies cardiovasculaires par rapport à l'évitement du café. Donc, les résultats s'appliquent aux variétés moulues, instantanées et décaféinées. Donc, ils ont fait plein de tests. Ils ont recruté des adultes âgés de 40 à 69 ans. L'étude a inclus 449 563 participants, exempts d'arythmie ou d'autres maladies cardiovasculaires au départ. L'âge médian était de 58 ans et 55,3% étaient des femmes. Les participants ont rempli des questionnaires sur les habitudes de café et tout ça. Et ils ont comparé... voilà ce qui se passait. Alors, le type de café habituel était instantané chez 198 000 personnes. Donc, 44% des gens buvaient du café instantané. Du moulu pour 18% et du décaféiné pour 15%. Il y avait 22% non buveurs de café qui servaient de groupe de comparaison. Voilà. Donc, les buveurs de café ont été comparés aux non buveurs, etc., etc. Le suivi a été médian était de 12,5 ans. Au total, 6,2% des participants sont décédés au cours du suivi. Donc c'est normal, il y a toujours des morts, hein, au cours du suivi, des gens qui meurent, en fait. Hein, quand vous avez une étude basée sur autant de personnes, c'est normal qu'il y ait des morts. Hein. La plus grande réduction du risque observé, avec 2 ou 3 tasses par jour, était associée à une probabilité de décès inférieure de 14 à 27% et 11% pour les préparations décaféinées, moulues et instantanées, respectivement. Donc en gros, ce qu'il raconte, le professeur Kistler a déclaré « La caféine est le constituant le plus connu du café, mais la boisson contient plus de 100 composants biologiquement actifs. Il est probable que les composés non caféinés soient responsables des relations positives observées entre la consommation de café et les maladies cardiovasculaires. Et nos résultats indiquent que la consommation de petites quantités de café de tout type ne doit pas être découragée, mais peut être appréciée comme un comportement sain pour le cœur. » Alors c'est vrai qu'on a eu tendance, alors c'est peut-être plus les générations juste avant nous, donc ceux qui ont aujourd'hui 50, 60, 70 ans, ces gens-là ont une vision... On a entendu des gens « j'arrête le café, je me désintoxifie du café, j'arrête mon addiction à la caféine, etc. » De voir le... En fait, il y avait 3 addictions globalement pour ceux qui sont des années 70, 80, 90. C'était tabac, alcool, café. C'était les 3 addictions mis un petit peu quelque part. C'était les 3 nocifs pour les gens. Alors, à mon sens, il y en a peut-être un extrêmement nocif, le tabac. De l'alcool, mais l'alcool pas dans... En fait, pourquoi je hiérarchise ? Parce que l'alcool, il y a une dose qui peut être légèrement profitable. Vous savez, un petit verre de rouge de temps en temps, on dit que c'est pas mal, bon, c'est pas pour l'alcool. L'alcool a un léger avantage, hein, mais c'est surtout pour les polyphénols, etc. Alors que le tabac, par exemple, même à toute petite dose, il a 0 avantage, le tabac. Et alors que le café était mis comme un nocif, entre guillemets, dans la tête des gens, parce que palpitations, parce que tout ça, mais finalement, il y a plutôt un rôle protecteur. Donc il va falloir certainement des années avant de remettre dans la tête des gens que leur café est bon, en fait. Il y a des gens qui ont arrêté le café, parce qu'ils le percevaient comme malsain, alors que ça n'est pas du tout le cas. C'est ça qui est intéressant, des gens qui ont souffert d'arrêter la caféine, parce que dites-vous bien une chose, c'est quand votre cerveau était habitué pendant des décennies à fonctionner avec des petites doses de caféine, il y a quand même un rôle au niveau de la chimie du cerveau quoi, qui se passe, hein, avec un effet tampon de l'adénosine et tout ça. Un cerveau qui a carburé avec un peu de caféine, ben le sevrage est très compliqué, maux de crâne, etc. Alors que c'est pas nécessaire de s'en passer, à part si vraiment il y a quelque chose d'avéré chez l'individu. Mais là, visiblement, c'est pas forcément le cas. Si on dépasse pas les 3 tasses par jour pour le café instantané, par exemple, quoi. Alors café instantané. Je sais pas si vous en buvez vous, mais c'est dégueu, quoi. Enfin, personne boit du café instantané. Sauf si vraiment vous êtes en camping, et encore aujourd'hui on a des moyens de boire du café autrement, mais le café instantané c'est vraiment le truc, non merci, je vous le laisse. Enfin, je vous le laisse. S'il n'y a que ça, je le prends. Mais je préfère même les pires Senseo premier prix que ça, quoi. Enfin, bref. D'ailleurs, s'il y en a qui me disent pas du tout, y en a qui sont très bons, mettez-le moi en message privé que j'aille voir un petit peu, que j'aille tester, quoi. Bon, bref, on en a terminé avec le café, donc dédramatisé. Moi, à peu près, c'est à peu près la dose que j'ai, 3 tasses. Hein. Alors, je suis plus à 2 qu'à 3. Mais en règle générale, j'en ai un dans la matinée et un dans l'après-midi. Voire 2 dans la matinée, si j'ai une nuit de sommeil un peu compliquée, et un dans l'après-midi. C'est un peu mon rituel, j'aime bien fonctionner comme ça, et ça ne me pose pas du tout de problème pour dormir. Après, il est vrai que si vous buvez... Moi, j'ai un de mes meilleurs amis, là, qui lui, de temps en temps, il prend un café, et le lendemain, quand je le revois, il me dit oh, « aujourd'hui, j'en prends pas, est-ce que j'ai pas dormi de la nuit ?» Alors, je sais pas si ça a un rôle somatique ou pas chez lui, mais il est hyper, hyper sensible à ça, quoi. Bon. Mais c'est aussi le genre de gars qui s'y prend un shaker de protéines, il a l'impression qu'il dort pas la nuit. Donc, on pourrait se dire qu'il y a un rôle somatique là-dedans. enfin psychosomatique. Bon, perdre du poids à l'aide d'une application, est-ce que c'est, à votre avis, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est possible? Probablement, probablement qu'un jour, il sera possible de perdre du poids avec une application. Donc là, c'est un article de Lucie Haye sur planetesante.ch. Alors, ils disent un concept de perte de poids simpliste. En théorie, pour perdre du poids, il faut créer un déficit calorique afin que l'organisme puise dans ses réserves, idéalement adipeuse, pour assurer son fonctionnement. Par quelques calculs théoriques, on peut estimer qu'il faudrait un déficit de plusieurs milliers de calories pour perdre un nombre donné de kilogrammes. À ce jour, la majorité des applications repose sur ce concept. Oui, c'est vrai que quand, par exemple, vous inscrivez sur un site, par exemple, qui compte vos calories et tout, quand vous lui dites à la base que vous renseignez vos informations, on vous dit vous pesez combien, votre taille, enfin bon voilà, vous rentrez tout ça, et vous voulez arriver où ? Donc, ils vont se. Après, il y a un petit calcul qui va se faire pour vous dire bon, bah, vous devez à peu près manger tant de calories, quoi. Et selon si vous êtes pressé, pas pressé, il va être plus ou moins hardcore. Or, les mécanismes. Alors là, je reprends les citations. Or, les mécanismes qui régulent le poids sont bien plus complexes qu'une simple soustraction. Sans blague. Sans blague. Je pense que les gens commencent à se rendre compte aujourd'hui que les calories ne se valent plus. C'est-à-dire que le simple calcul calorique, ça n'est pas la. Enfin, les gens commencent à le comprendre quand même. Avec les gens qui se sont retrouvés obèses mais carencés. Avec les gens qui se sont retrouvés à diète égale, à pas avoir les mêmes résultats. En fait, les calories, il faut regarder le devenir de la calorie. Comment on la métabolise. Mais il y aura toujours des gens qui vous diront. Allons à la simplicité, la science vous dit que les calories, c'est les calories. Bon, souvent, ce sont ceux qui ont les physiques de traître, mais bon, on n'a pas le droit de le dire, puisque il ne faut pas avoir gagné le Tour de France, je crois, je sais plus ce que c'est, faut pas gagner le Tour de France pour être entraîneur, ou il y a un truc comme ça, en fait, où, et avant, je crois qu'on disait, faut pas avoir eu le cancer pour être cancérologue. Je sais pas, ça me paraît toujours étrange, ces comportements. De raisonner comme ça, mais bon, bref, c'est peut-être vrai, mais en fait on ne peut pas s'appuyer que sur la réduction des calories pour perdre du poids. Évidemment qu'une personne qui ne réduit pas ses calories, par exemple, il fait la meilleure diète du monde, la plus saine par rapport à toute la science possible et imaginable, donc je sais pas, un hybride entre la diète méditerranéenne, paléo, je sais pas quoi, vraiment le truc le plus sain possible. Mais si cette personne-là, elle bouffe 3500 calories alors qu'elle en dépense 2500, elle aura du mal à perdre. Mais c'est ça qu'on essaye de pointer du doigt. Les gens qui disent quoi, quand vous ne croyez pas à la réduction des calories, ça veut dire qu'on peut manger autant qu'on veut, on perdra quand même. Non, ça veut juste dire qu'il faut, d'accord, réduire l'apport calorique, mais il faut faire attention à ne pas réduire l'apport calorique, mais pas avoir plus rien dans sa diète. Plus rien dans sa diète, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire avoir des trucs qui servent à rien. C'est pour ça que je dis aux gens, et c'est d'ailleurs ce qui est compliqué, mais quand on dit aux gens, ouais, quand vous êtes au régime, il faut un peu vous faire plaisir de temps en temps, sinon vous pétez un câble. Il y en a qui le font un peu tous les jours, mais le problème, c'est que quand vous avez un apport calorique qui n'est pas très élevé, admettons, vous êtes à 1800 calories par jour, pour essayer de faire une sèche un peu violente, mais pour moi c'est pas violent, mais bon, faire une diète à 1800 calories, une diète vraiment pour taper dans le lard, quoi, et que dans ces 1800 calories vous accordez, je sais pas, 400 ou 500 calories d'aliments qui vous plaisent parce que vous voulez pas trop vous frustrer, ben en fait vous vous carencerez plus vite que celui qui utilisera ces 400 ou 500 calories avec des aliments hautement nutritifs, c'est-à-dire des aliments avec des bonnes sources de protéines, des bonnes sources d'acides gras, etc. Et des bonnes sources de vitamines, minéraux. C'est là en fait où les gens ils comprennent pas, c'est-à-dire que plus on restreint son apport énergétique, plus la qualité de son alimentation doit être, pour faire plaisir à Gundil, irréprochable. Pourquoi ? Parce que sinon, en fait, on se retrouve à manger ce qu'ils appellent les calories vides. Mais en fait, ça ne veut rien dire, les calories vides. Parce que quand on dit calories vides, les gens se disent « Cool, ça veut dire que je peux en manger, il n'y a rien dedans. » Non, ça veut dire qu'il y a juste ce que tu ne veux pas dedans, en fait. C'est ce qui va te faire prendre de la bouée et du tour de pétard, quoi. Et la problématique, c'est ça. C'est, Malheureusement, celui qui peut se permettre le plus d'écart au niveau, entre guillemets, carence nutritionnelle, c'est celui qui est en excès calorique, parce que lui, il a plus de chances d'avoir tout ce qu'il lui faut, donc il peut se permettre de manger un peu mal. Mais celui qui a la diète, plus on serre la vis, plus on doit manger sainement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anorexiques et tout qui se détruisent la santé très vite, parce que non seulement, alors quand ils sont en phase euphorique, ils bouffent rien, et quand ils craquent, ils bouffent que des merdes. Mais le lendemain, ils culpabilisent, donc ils rebouffent rien. Donc en fait, ils se retrouvent à manger que des merdes pour s'alimenter, dépourvus de micronutriments, enfin de ce qu'il leur faut. Donc ils se carencent ultra vite, quoi. Et puis en plus, ils ont un physique tout pourri, parce que forcément, avec des allers-retours comme ça de poids, il n'y a pas un gramme de muscle. Alors ils ont l'impression d'être musclés parce qu'ils sont secs. Mais en fait, enfin, il n'y a rien, quoi. C'est malheureux, mais c'est pour ça que c'est une vraie maladie, parce qu'ils s'abîment mentalement, physiquement, quoi. Bref, pourquoi je raconte tout ça ? Parce qu'on en revient à ces fameuses applis avec leurs algorithmes. D'une part, les algorithmes basent généralement leur estimation sur les données d'un petit échantillon de personnes. Ces estimations ne sont ainsi pas forcément représentatives des situations de chaque individu. D'autre part, notre corps possède des mécanismes d'adaptation qui peuvent freiner totalement la perte de poids dans les périodes de sous-alimentation. Bon, ça, on l'a tous vérifié. Au début d'une diète, tout va bien, on a le cerveau qui est en mode fête, dopamine à fond de boîte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on pensait... ma théorie, hein, c'est une hypothèse personnelle. On a quand même une impression qu'un régime va être compliqué, et quand on se rend compte que c'est pas si difficile, il y a une phase « je me sens bien, cool, fun ». Bon, ça dure pas, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que ça nous tiraille, et que notre nature nous invite à aller faire le plein et faire un petit réservoir de tissu adipeux, remplir le réservoir de tissu adipeux. C'est pour ça qu'un physique en pleine santé n'est pas un physique avec les 6 ou 8 abdos apparents avec des veines dessus, mais plutôt un physique athlétique avec un tout petit peu de tissu adipeux sur le bide. Alors je dis pas avoir les abdos complètement nappés, je vous parle d'avoir un léger tissu adipeux. Donc voilà, pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous avez au moins de quoi tenir un peu, quoi. Pour moi, c'est ça. N'oubliez pas, la santé, c'est pas l'esthétisme. La santé, c'est esthétique, bien sûr, mais c'est aussi de vous faire survivre. Et ce que le corps veut, c'est survivre, en fait, hein. Sauf quand on l'emmerde trop, ou d'un moment, il dit stop. Donc d'autre part, notre corps possède des mécanismes d'adaptation qui peuvent freiner, donc des carences et des problèmes de santé à moyen et long terme peuvent en découler. Enfin, un algorithme n'est pas en mesure de prendre en compte de nombreuses variables de l'environnement social, économique, psychologique, etc., dans lesquelles une personne évolue. Or, l'environnement est le principal déterminant de santé. L'environnement, la psychologie, les discours aussi, hein. Si vous êtes entouré que de personnes qui disent, toi c'est génétique, nous c'est génétique, nous on est comme ça, on pourra rien faire, etc. C'est sûr que ça encourage pas à sortir les doigts du pétard, comme je dis souvent. C'est comme pour plein de problèmes, hein. Plus on fréquente un groupe de gens qui a le même problème, plus on se rassure. C'est vrai pour la drogue, c'est vrai pour plein de choses, et c'est vrai aussi pour le surpoids. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, en général, dans une famille, le surpoids est présent, parce que les habitudes, la psychologie, le discours est le même, en fait, dans le foyer. Et moi, ça, je le vois. Et d'ailleurs, j'ai remarqué chez les enfants de parents en surpoids que le surpoids ne survient pas tout de suite, ça se perçoit pas tout de suite. Ça commence à pointer le bout de son nez, on va dire, entre 7 et 10 ans. Là, on commence vraiment à voir que le style de vie des parents, boum, ça y est, ça se voit sur les enfants, quoi. Mais après, ça n'est qu'une observation. Je pense que certains pédiatres pourront dire que ça peut se percevoir grâce aux courbes plus tôt. Et c'est vrai qu'il y a un bon marqueur pour ça. Ce sont les quand on voit que l'angle que commence à prendre la courbe très tôt dans l'enfance, on peut se dire attention, il commence à suivre une trajectoire qui va l'amener à un IMC trop élevé, qui va l'amener à terme à des problèmes de santé futurs. Il aura toujours des problèmes de surpoids une fois adulte. Et là, les parents peuvent tout de suite tirer un peu le frein à main, etc. Il y a de bons pédiatres là-dessus qui sont capables de vous aiguiller là-dessus. Il y avait eu un reportage qui en parlait, je l'avais partagé dans la newsletter VIP d'ailleurs. Je vous invite à aller re-regarder mes newsletters VIP parce que je ne vous la renverrai pas. Parce que j'en ai envoyé trop, donc ne me demandez pas de la retrouver. Il faut, je pense, la re-regarder. Mais une chose est sûre, c'est que il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, quoi. Donc, moi, j'y crois pas en ces applications. Surtout que je trouve qu'il y a une nouvelle addiction qui se crée, c'est des phobies pour les gens qui n'arrivent pas à s'en passer, à compter les calories et tout. Et je ne pense pas que ce soit une vie que de compter ses calories tout le temps. Alors compter sa diète, quand on switch d'une diète PDM à une diète sèche ou à une diète de maintien, pourquoi pas, pour savoir un petit peu ce qu'il faut manger. Mais bon, logiquement, une fois que vous avez pris 2, 3, 4 photos de vos plats, c'est fini, plus besoin de compter, vous avez un repère dans la tête, c'est bon quoi. À moins que vous soyez bodybuilder de haut niveau et que vous deviez faire une sèche au poil de cul près. Mais sinon, c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine. Voilà, un secret, c'est que c'est pas la peine. Après, par rapport à la perte de graisse, quelque chose que je vois très souvent chez les personnes qui me disent « j'arrive pas à avoir cette dureté, cette qualité musculaire, j'arrive pas vraiment à faire sortir certaines fibres musculaires, à être bien sec et tout », très 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 souvent quand ce sont des gens qui sont très actifs au niveau de la nutrition, c'est-à-dire qui sont vraiment très rigoureux, c'est l'intensité d'entraînement. Alors là, je sais qu'il y en a qui vont dire je cours, je fais mon cardio, je fais mon HIIT et tout, ouais, mais muscu. Quel est votre degré d'intensité en muscu? Je peux vous garantir que moi je suis quelqu'un de très curieux, où j'ai fait des périodes où j'ai fait beaucoup de cardio, puis un peu moins de muscu, des périodes où j'ai fait beaucoup de muscu, puis moins de cardio, des périodes où j'ai fait du HIIT, des périodes où j'ai fait du LISS, des périodes où j'ai fait du poids de corps pour la muscu, etc. Je peux vous garantir que le physique le plus dur, hein, le plus défini et même le plus sec, c'est quand il y avait un ratio muscu plus important et de la muscu lourde. Voilà. Et je pense que ceux qui ont fait des sèches réussies... Alors, moi, je parle pour les pratiquants naturels. Hein. Je ne parle pas pour les anciens dopés, les futurs dopés... Enfin, pas les futurs dopés, non, ça ne change rien. Mais pour les anciens dopés et les dopés, je n'en sais rien et je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là. Je ne peux pas vous aiguiller. Mais pour les personnes naturelles, je peux vous garantir qu'un entraînement intense aide beaucoup à sécher. Intense en musculation, je parle, hein. Pourtant, c'est un peu, ça va contre la pensée où il faudrait faire des efforts type cardio, etc. Ça, c'est en fait, c'est juste un bonus, le cardio. Le cardio, c'est juste pour créer peut-être un delta plus intéressant entre apport-dépense. Mais concrètement, la muscu, déjà d'une, vous allez garder plus de masse maigre, donc il y aura plus de chances que ça se voit. Enfin bon, tout ça. Et au niveau métabolique. Le fait de s'entraîner intense, je peux vous garantir, alors pas sur un point faible, hein, n'allez pas entraîner très lourd, un point faible qui réagit, s'il réagit pas en prise de masse, il va pas se mettre à réagir en sèche à du très lourd, hein. Et puis n'allez pas vous blesser non plus, mais un entraînement lourd en muscu en sèche, moi j'ai toujours vérifié que ça marchait mieux que de faire du poids de corps en très long, etc. Ça n'est qu'un constat personnel. Après, si vous avez constaté la même chose, dites-le moi en commentaire. Alors après, ça a plein d'autres effets négatifs. Hein. Quand on fait une sèche, on a déjà le cerveau à l'envers. On se réveille le matin, on se demande s'il n'y a pas une moitié de notre cerveau qui est resté sous la couette. On se demande ce qui se passe. On a froid. Alors que tout le monde est en t-shirt, nous on a envie de mettre un sweat. On sent bien qu'au niveau métabolique, ça fonctionne pas au top quand on est vraiment en sèche. Hein. Je parle pas du petit régime. Hein. Je parle de la sèche où on va faire un shooting photo derrière ou des choses, des choses un petit peu sérieuses, pas des choses juste pour descendre d'une taille de pantalon. Donc on est déjà cramé nerveusement, notre volonté elle est mise à mal toute la journée avec les stimulations visuelles, olfactives et tout ça de la bouffe. Quand on arrive à la salle, quand on doit se mettre dans le rouge, surtout par exemple quand on fait ses squats ou son soulevé de terre, à chaque fois qu'on pose la barre, on se demande si on n'est pas dans un rêve de d'Inception là, le sol qui monte, etc. quoi. Vous savez cette sensation d'hypotension qu'on peut avoir quand on est allongé sur le canapé complètement crevé, qu'on se lève d'un coup. En fait, notre âme, elle est restée allongée sur le canapé, il n'y a que notre corps qui s'est levé, quoi. Mais là, c'est un peu la même chose quand on est bien à la diète et qu'on pose la barre au squat ou au soulevé de terre. Ouf, on se demande ce qui s'est passé, quoi. On se demande si notre âme, elle n'est pas restée figée en position basse au soulevé de terre et que nous, notre corps, il se balade tranquille, quoi. Il y a un décalage, en fait. C'est un petit peu comme quand vous regardez un film piraté et que l'acteur il parle et en fait la voix elle est un peu rétroactive, quoi. Ça arrive après. C'est un peu la même chose quand on est au régime un peu sévère. Donc tous ceux qui l'ont déjà vécu ça, dites-le en commentaire, votre façon de le verbaliser. Moi je sais que c'est comme ça que je le vivais, et c'est vrai qu'à ce moment-là c'est un peu contre-intuitif d'être très intense à la muscu parce que justement, nerveusement, on est déjà sur les rotules. Donc si on fait ça plus un entraînement intense, donc le régime plus un entraînement intense, c'est pour ça que je dis souvent que le lendemain d'une très grosse séance cuisse, par exemple, quand vous êtes au régime, le lendemain, vous êtes limite en dépression, quoi. Vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis triste? Qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est juste que votre système nerveux, il est cuit et que vous ne faites rien, en fait. Et que votre corps, il vous dit, non, mais là, si tu sors, s'il se passe quelque chose, tu n'es pas apte à survivre. À la moindre béquille, tu tombes, tu meurs, en fait. Tu n'es pas capable de te protéger toi-même, en fait. Donc, reste sous la couette. En gros, c'est ça, quoi. Mais bon. Peu de gens vont vivre ça. Peu de gens vont se mettre dans le. Et puis, à quoi ça sert, à part justement, si vous voulez faire une couverture de magazine, mais si vous voulez faire juste un régime, avoir vos abdos apparents, vous n'avez pas besoin de vous mettre autant dans le rouge. Si vous avez besoin de vous mettre autant dans le rouge à l'entraînement, c'est que votre diète merde. Si vous avez besoin de vous mettre autant dans le rouge au niveau de diète, c'est que votre entraînement merde, en fait. Vous n'êtes pas censé vous mettre dans le rouge trop fort, ni à l'entraînement, ni à la diète, au régime. Un régime classique. S'il y a un bon ratio, un bon équilibre entre les deux, logiquement, ça doit bien se passer. Après, quand on bascule dans l'extrême, ben voilà, on sort du lot, on n'a plus le physique de monsieur et madame tout le monde à la salle, on atteint des niveaux de sèche qui sortent de la moyenne, mais bon, voilà, c'est un peu la rançon aussi de toute cette souffrance qu'on s'impose, quoi. Donc, eux, ils disent à la fin de cet article, plutôt que de se fixer un objectif de poids, il est préférable de se concentrer sur des petits changements facilement atteignables pour créer des bonnes habitudes plus saines, par exemple limiter les sodas, augmenter la consommation de légumes au repas, boire plus d'eau, dormir 7 à 9 heures par nuit, etc. etc. Bon, moi, ce que je vous donnerais comme recommandation, allez voir sur mon site, rubrique programme ou rubrique boutique, mon gros cours que j'ai fait sur la sèche. Allez voir, même sur la page principale, vous l'aurez. Vous avez 3 heures d'audio là-dessus, plus un PDF. Vous avez une partie diète, une partie entraînement, une partie style de vie. C'est certainement la version la plus complète qui existe en ligne de protocole pour perdre du gras de manière durable et pas le reprendre. Un mode de vie 6 abdos apparents tout le temps, en fait. Je pense que ma légitimité, c'est que je le fais depuis plus de 10 ans déjà et que, en fait, mon quotidien, c'est d'étudier ça, en fait, le style de vie qui permet de rester en forme esthétiquement et en santé également, quoi. Donc allez voir sur mon site, c'est disponible depuis déjà des années et ça a fait ses preuves. Voilà. Ensuite, ce week-end, j'ai parlé d'EconoFit. EconoFit, c'est quoi? C'est économiser du fric avec un mode de vie fitness. Vous le voyez, on en parle partout. Il va falloir faire des économies d'énergie, etc. Blablabla. D'ailleurs, moi, vous savez qu'on s'est tous fait imposer le compteur Linky, là, depuis. Alors, je pense que parmi vous, il y a des irrésistibles, mais c'est irréductibles gaulois qui ont refusé le Linky. Alors, dites-vous bien une chose, c'est que celui qui vient vous l'installer, il est pour rien. Ça sert à rien de lui casser les dents. Il est comme vous, il bosse. Il a rien demandé, quoi. C'est pas lui le coupable. Mais bon, je sais qu'il y a surtout là vers chez moi, là, dans les Cévennes et tout, il y a des villages où même le maire, il est et limite, il met un bandeau, il a le poignard entre les dents quand les mecs qui veulent installer Linky approchent de chez eux, quoi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça permet quand même de suivre votre consommation en instantané. Et moi-même qui... Alors évidemment, moi, les conseils que je vous donne dans le cours que je vous propose, c'est lié au fitness, hein. Moi, je vous dis pas comment économiser de l'argent, je suis pas économiste ou quoi. Moi, c'est juste des habitudes où on peut peut-être même tirer des avantages par rapport au physique ou à la santé. C'est ça qui est intéressant. Et moi, j'en ai mis en place. Combien j'en donne en tout? Je me rappelle plus exactement le nombre de petits tips que je donne. Mais moi, j'en ai mis en place 3. Et sur les 3, j'ai baissé de 10%. C'est-à-dire que les 10% visés par tout le monde, il faut baisser de 10%, je crois, un truc comme ça. Moi, je les ai atteints. En mettant en place 3 des conseils que je donne, 3 sur je ne sais plus combien, il y en a beaucoup plus, hein. Eh bien, j'ai réussi à baisser de 10%. J'étais fier, hein. J'étais fier parce que, voilà, moi, je m'étais dit, si je fais ça, plus ça, plus ça, forcément, je vais réduire, quoi. Et ça marche. Donc, j'ai réduit. Donc, l'idée, en fait, c'est... faire des économies en boostant son métabolisme. On va voir ce qui consomme le plus chez vous, comment économiser, les modes de cuisson économiques et bons pour la santé. On va parler de tenue de sport, on va parler d'astuces pour économiser de l'argent, des sports économiques. Bon bref, voilà, tout ça, si vous voulez faire un peu d'économie d'énergie pour la planète, mais également pour votre portefeuille, parce que ça coûte cher, eh bien, allez voir, c'est disponible sur le site, c'est en lien dans les notes de l'émission, et on passe un petit temps ensemble pour justement apprendre à faire des économies. Encore une fois, moi j'en ai mis 3 en place depuis l'enregistrement, parce que les enregistrements de cours, moi ça date pas d'hier, ça fait plus... La vidéo, quand elle sort, ça fait des fois 15 jours, 3 semaines que je l'ai enregistrée, et donc j'ai du recul là-dessus, et je peux vous confirmer que 3 d'entre eux, l'inclusion juste de 3 d'entre eux dans votre quotidien vous permettra de descendre de 10%. 10%, c'est pas rien. Hein, de calculer sur une année ce que représente 10% d'économie d'énergie, c'est pas rien. C'est pas rien. Voilà. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour les plus intéressés et les plus passionnés, vous avez les liens dans les notes de cette émission, sous cette émission, en description, etc. Partagez ce podcast avec quelqu'un à qui ça pourra plaire. Likez si vous voulez m'aider. Et puis, voilà, j'ai tout dit. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà. Je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.